Vous écoutez France Culture.
De la grande table d'été, nous parlerons aujourd'hui d'expériences extrêmes. Au cours de sa première partie, la grande table sera ainsi tour à tour suspendue, comme en lévitation, comme le corps et l'œuvre de la chorégraphe et trapéziste Chloé Molia. Puis, soudain, rebondissante comme un trampoline, celui sur lequel s'escrime avec humour l'acrobate Yann Écouvre. Puis, après la chronique d'Aude Lavigne à première vue, et avant de déguster une nouvelle gourmandise estivale et pop dénichée par Marine Loyen, la seconde partie de la grande table d'été vous dressera l'effrayant portrait des djihadistes de papier, de Dawa, le polar de Julien Suaudeau, et des islamistes bien réels, mais divisés quand il s'agit de choisir entre le fric et la piété, des extrémistes qu'a rencontré le journaliste Mathieu Suc. Mais avant de parvenir aux dernières extrémités de la grande table d'été, entrez, chères auditrices et auditeurs, dans le cirque de notre première partie. Un cirque qui réunit deux extrêmes de cet art pluriel, celui ultra dépouillé de Chloé Molia, bonjour. Et celui frénétique et burlesque de Yann Écouvre, bonjour.
Bonjour.
Avant, Chloé Molia, Yann Écouvre, de décrire plus avant vos spectacles, j'aimerais que nous revenions un instant aux origines de vos parcours respectifs, des points de départ, puisque nous parlons d'extrêmes qui semblent presque opposés. Vous, Yann Écouvre, avant de devenir acrobate, vous avez ainsi étudié la mécanique auto. Quels souvenirs en gardez-vous ?
Le froid et le chaud, souvent rencontrés dans des instants très courts. Un mal au dos dans le futur assez conséquent. Et tous les métiers sont pas égaux. On l'a vu un peu dans les réformes sur les retraites. Et je trouve
que la pénibilité du travail.
Exactement. Et enfin moi en tout cas la mécanique auto quand j'ai commencé, c'est là où j'ai compris que c'était plus cool d'être artiste plus tard que mécanicien toute sa vie. Non.
Alors qu'est-ce que vous avez appris qui vous sert peut-être encore aujourd'hui dans votre pratique ?
À réparer une voiture quand elle est en panne.
Et pour la construction des décors, il n'y a pas un goût des ressorts, des balancements,
en fait,
de la tôle froissée ?
Eh ben non, en fait ça vient plutôt de mon premier hobby depuis tout petit, qui est les jeux de société diverses et variables, on va dire. Et du coup c'est mon espèce d'esprit mathématique mélangé à la création de jeux. Et c'est cette vision-là en fait, je pense, qui amène toutes ces façons de faire.
Il y a un petit côté, oui, Capla, ces jeux où on empile des plaques de bois dans certains de vos spectacles. Il y a aussi un côté jeu vidéo, un côté Donkey Kong, le plombier Super Mario qui doit éviter des bonbonnes. C'est une référence qui vous a nourri ?
Oui, en même temps, pour le premier spectacle, ou au trampo en tout cas, c'est...
Au trampoline ?
Voilà, celui au trampoline, d'où vient le nom de la compagnie ? C'est quand même plus du terrorisme clair... au trampoline, et je pense qu'on a tous moyen de... Enfin, je voulais... Déjà, j'ai fait beaucoup de musique arabe, gnawa, issawa, une époque, donc j'avais un côté très maghreb pour un fils de niçois dont toute la famille vote Front National depuis des années. C'était pas mal. Et du coup, je voulais un peu mettre ce côté-là que j'ai en moi, quoi, dans un spectacle. Et du coup, de me retrouver avec des bonbonnes de gaz au trampoline.
Dans une djellaba, pour ce spectacle, voilà. Inextrémiste.
Bon, au début, j'avais pas encore la djellaba. Et puis, c'est en bossant un peu avec Stéphane Filoc, de Carnage Productions, où il me regardait faire. Il me disait, tiens, mais tu serais en plus dans une robe avec tout ça, là. Ce serait, mais juste la contrainte la plus. Puis, il fait une robe ou un genre de djellaba. Et puis, là, je fais, djellaba. Mais si on fait une djellaba, on peut bifurquer vers un truc vachement plus. Enfin, tendancieux et puis revendicateur. Et moi, j'aimais beaucoup ça. Et puis, du coup, c'est comme ça que c'est un peu bifurqué vers là, quoi.
Alors, on reviendra sur ce côté tendancieux et provocateur. Vous, Chloé Molia, puisqu'on parlait des débuts, des origines, avant de devenir chorégraphe et trapéziste, vous avez pratiqué la gymnastique. Que vous en reste-t-il ?
Alors, je ne suis déjà pas sûre d'être chorégraphe. Hein. Je ne suis pas sûre de ça. La question de l'origine, elle est compliquée parce que je n'ai pas du tout la sensation que ce soit la gymnastique qui soit l'origine, ni même qu'il y ait une origine définie. J'ai fait un peu de gymnastique, mais j'étais vraiment pas bonne. Non, c'est vrai. Et non, après, j'ai J'ai grandi dans un atelier de céramique où j'ai passé beaucoup de temps à regarder l'évolution de la matière quand on y balance du feu, quand on y mélange de l'eau, quand elle sèche à l'air. Peut-être que ça, c'était plus frappant pour moi que mon temps de gymnastique. La gymnastique, ça m'a amené en fait un peu par défaut au cirque parce que je cherchais un endroit où pouvoir travailler physiquement sans qu'on me force à faire des compétitions. Donc par défaut, on m'a collé dans un club d'acrobatie qui m'a doucement amené vers des trucs de cirque. Mais je m'en fichais complètement du cirque initialement. Je voulais éprouver physiquement des choses. Je voulais éprouver physiquement de pouvoir aller au-delà de ce que j'avais l'impression que je pouvais faire au départ. Donc il y a une espèce de travail aussi de transformation de la matière de soi-même à cet endroit-là, peut-être. Et du coup, j'ai atterri comme ça là-dedans.
Et de transformation du corps également, que vous n'hésitez pas à donner à voir, à mettre en scène. Un corps sculpté, un corps musclé comme celui des athlètes, des athlètes et des gymnastes.
Du corps ou de la personne, j'ai du mal avec les notions de corps à l'occidental, corps-esprit, tout ça. Qu'est-ce qu'on travaille ? C'est-à-dire quand je cours ou quand je suis suspendu, c'est pas le corps qui m'arrête, hein, c'est pas le corps. Donc c'est un travail de soi, je sais pas, de soi, de autour, qui fait qu'on rencontre des choses, des obstacles, des machins. Mais les obstacles sont pas tellement corporels à cet endroit-là. Hein. C'est vraiment l'interprétation qu'on se fait des sensations qu'on a. C'est un champ énorme d'exploration, ça.
Vous évoquiez l'atelier de céramiste de vos parents, je crois que c'était du côté de Perpignan.
Ouais.
Salvador Dali disait que quand il passait en gare de Perpignan, c'était le centre du monde pour lui, la gare de Perpignan, parce qu'il avait toujours des idées de génie à cet endroit-là. Vous courez aux quatre coins de la planète avec vos spectacles. Ça reste le centre du monde, Perpignan, pour vous ?
Non, du tout, non, j'ai beaucoup d'affection pour les grandes paroles de Salvador Dali. Mais non, pas du tout, je suis pas attachée à quelconque gare, a priori.
Jibril Circus, un morceau du groupe Papanoche avec qui vous jouerez samedi en clôture du festival Mince Alors, Yann Ecovre. Je le disais, depuis vos débuts, vous avez quand même, et vous le dites, vous avez pris vos libertés, Chloé Molia, Yann Ecovre. Chez vous, Yann Ecovre, il n'y a pas de machine-outil, il n'y a pas de bleu de travail dans vos spectacles. Le spectacle qui a donné son nom à votre compagnie, vous le disiez, c'est In Extremis, un personnage d'apprenti terroriste, affublé donc d'une djellaba. Cependant, le prophète de votre personnage, il semble être non pas Mahomet, mais plutôt Buster Keaton. Vous êtes un adepte, un fidèle de Buster ?
Oui, je le suis. Ouais, je le suis parce que c'était quelqu'un... En fait, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le cirque, c'est quand... Buster, il était hyper connu pour être Monsieur Une Prise. Contrairement à Chaplin, qui avait une autre version, mais qui est tout aussi bien, mais qui, lui, était un précis. Il refaisait 150 fois la prise s'il fallait, tant qu'elle n'était pas comme il voulait. Buster Keaton, lui, c'était non, une prise, une seule action, une seule prise. Il y a eu un bon exemple de ça, c'est dans le mécano de la générale. Si un jour vous revoyez ce film, chers amis auditeurs, il y a un passage où il est sur le toit, il délivre en fait son amoureuse qui se fait plus ou moins kidnapper par justement le général qui prend le train, tout ça. Et puis ils se retrouvent sur le toit, et à un moment sur le toit, ils arrivent à ces espèces de... Je ne sais même pas comment ça s'appelle, de trucs qui à l'époque remettaient de l'eau dans les chaudières à vapeur.
Ces réservoirs,
ouais. Assez violentes. Et bien, re-regarder cette scène attentivement, c'est assez intéressant parce qu'en fait, Buster lui a rien dit du tout. Et il a dit, tu verras, on va faire une scène sur le toit. Et elle se prend des litres et des litres d'eau d'un coup. Elle manque de tomber du train. Il la rattrape par la poignée. Et il y a eu des témoignages après de elle qui disait que c'est une des plus grandes peurs de sa vie. Et voilà, une prise. parfaite et comment jouer mieux que ça, ça quoi. Du coup, nous, comme dans le cirque, on est quand même obligé de refaire plus ou moins les choses. Donc nous, on essaye de quand même se rapprocher d'un réalisme le plus complet qui va dans cette veine-là. Enfin, moi, je dis souvent que le théâtre, c'est un métier et que du coup, là où quelqu'un... où un bon acteur peut montrer qu'il marche sur des braises qui n'existent pas, bah nous on va mettre des braises comme ça, ça aura l'air juste quand on marchera dessus. Et je pense que c'est ces liens-là aussi qui sont avec le travail de Buster Keaton, qui avait une espèce de réalisme absolu. De toute façon, il venait de la rue, puis voilà, cinéma, puis toute sa vie qui était complètement incroyable, qui est mort tard. Et voilà.
Il aurait eu le temps de passer au cinéma parlant. Chloé Molia, en ce qui vous concerne, vous avez jeté aux oubliettes les rubans de gymnastique rythmique, les saluts triomphants adressés aux juges, les sourires forcés. Vous préférez les chorégraphies minimalistes, à la fois âpres et délicates, presque absolument silencieuses, comme dans votre spectacle Opus Corpus. Est-ce un signe de révolte contre l'image traditionnelle, bruyante, burlesque, grandiloquente, qui colle au cirque?
Alors, non. Pas du tout, parce que l'image du cirque, je crois que je m'en fiche, en fait. Par contre, sûrement, il y a un aspect de résistance qui se fait, je ne sais pas s'il est volontaire ou involontaire, par rapport à une espèce de surcharge d'événements, d'informations, de sollicitations de partout. Et c'est comme si j'éprouvais le besoin de dire « Attendez, on arrête, on prend un petit segment et on le regarde ». Et après, on me dit souvent que je travaille lentement, que je travaille dans la lenteur. Je suis en fait pas du tout d'accord avec ça. Parce que quand on regarde un petit segment et qu'on le regarde vraiment, il se passe énormément de choses dans presque rien. Donc c'est vraiment un changement de focale. Et ce que j'essaye de faire, c'est de ralentir pour justement arriver à capter chaque chose qui se déroule, tout ce qui se
des
passe.
Des petites perceptions.
Voilà, ou des énormes perceptions, mais sur lesquelles on glisse parfois par habitude, par convention, par tout ça. Et du coup, on arrête ça, on arrête ce segment. On prend une espèce de microscope ou une focale une manière d'avoir le sensible, une grande acuité sensible pour voir tout ce qui s'y passe. Et là, du coup, ça va très très vite en fait. Ça va très très vite. Je ne travaille pas du tout lentement. J'essaye de ralentir.
Et vous parlez de votre résistance à l'égard de ces flux d'informations qui nous arrivent sans cesse. Est-ce qu'on peut parler, dans le travail de votre compagnie Rhizome, ou du moins dans ce spectacle Opus Corpus que j'évoquais, d'un refus du divertissement, au sens où le philosophe Pascal emploie ce mot, c'est-à-dire un refus de se détourner non seulement des douceurs, mais peut-être plus encore des souffrances de l'existence?
Alors, une manière de se détourner, je ne sais pas si c'est des souffrances ou des douleurs de l'existence, ça, il faut se les manger de toute façon. Que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Mais en tout cas, oui, de ne pas se détourner, oui. Oui, il y a une idée de ne pas se détourner. Et du coup, comme Yann parlait de l'idée d'être d'une espèce de justesse, d'être là où on est au moment où on y est, de ne pas faire semblant d'eux. Moi, par exemple, je déteste le mot « répétition ». Je n'ai pas du tout l'impression que ce soit un mot qui s'applique à mon travail. Je ne répète pas ce que je fais. Je ne répète pas, c'est complètement idiot. Donc j'essaye de créer les conditions pour que la vibration du vivant ait lieu à un moment et que ça puisse se traverser, que ça soit là. Donc il n'y a pas d'idée de répétition ou de choses qui s'enlisent dans un savoir-faire. Non, il faut arriver à connecter les forces de ce qui a lieu et puis à s'y mettre dedans et à voir un peu émerveillé comme un môme, quoi. Qu'est-ce qu'il advient de ça, quoi? Comment ça vibre, comment ça se passe? Après, ça, c'est complètement émerveillant.
Yann Ecovre, je parlais à propos de vos acrobaties de Buster Keaton, ça résonne en vous. Il y a bien sûr du rire, pas qu'un peu, au cœur de vos spectacles. Mais comme chez Buster Keaton, est-ce qu'il n'y a pas également une dimension tragique? En particulier quand vous mettez en scène ce personnage d'apprenti terroriste dans votre spectacle In Extremis, dont vous nous avez dit un mot.
Oui, un peu dans... Enfin, tragique. Après, moi donc quand je fais le spectacle, je pars toujours d'abord d'une écriture qui est presque globale dès le début. Du coup, à un moment donné, c'est vrai quand on commence le cirque, on a 20 ans et tout, on va un peu être un super-héros. Et puis après, au bout d'un moment, on fait « Ouais, mais en fait, je vais plutôt devenir un blaireau de gymnaste », comme disait Coluche. Pas tout à fait dans ces mots-là, mais... Et puis à un moment donné, ben on se dit ah ouais mais non mais en fait qu'est-ce que j'ai envie de dire dans la vie? Et pour moi en tout cas, je me suis vite demandé mais comment changer le monde sans être médecin? Et vu qu'en plus on a plein qui le font pas vraiment, Et du coup, là, quand on voit qu'on a un peu l'art pour nous, et ben, on se dit, ok, ben, c'est là-dedans qu'il faut que je passe tout. Donc, il faut que je passe des messages et c'est là qu'il faut que j'essaye de, que je pourrais toucher des gens à ma façon, même si, enfin, l'évolution culturelle dans notre monde est plutôt décroissante. C'est beau, ça, France Culture. Et mais voilà, c'est un peu ma façon. Donc du coup, par rapport à voilà, cette question de tragique ou pas, en tout cas, j'essaie de faire passer des sentiments, de faire passer des réflexions, de remettre les gens un peu en question de par rapport à qu'est-ce qu'ils pensent au début de... Parce que là, le premier, il y a effectivement du terrorisme. Dans le deuxième, il y a...
Ça extrémité.
Mal, voilà, c'est pas par mal de l'handicap. Le troisième aussi... le quatrième qui est en cours là, bon, c'est un truc beaucoup plus farfelu. Mais du coup, ils ont comme point commun quand même, chacun au début, le spectateur se dit non, on peut pas plaisanter avec ça, pas comme ça, pas aussi violemment. Et puis après, en fait, j'aime bien avoir une écriture qui fait que malgré tout, finalement ça les prend et après ils en rient. Alors que dans les premières scènes, à chaque fois que ce soit. Quand j'arrive en djellaba avec 5 bouteilles de gaz et que mon numéro c'est tout le monde va mourir maintenant, ou que Rémi il arrive et qu'on essuie son propre pipi avec lui-même, il y a toujours un petit moment de silence que j'adore où les gens ils disent merde, en fait on n'aurait pas dû venir voir ça. Et à la fin de renverser complètement ça, j'aime bien parce que du coup ça a fait réfléchir un peu différent. Puis par rapport à ce que disait Chloé, c'est vrai que nous, par exemple, on fait non seulement pas de répétition, mais pas de filage, même pas d'échauffement. Pour moi, répéter avant de jouer, c'est le truc le plus improbable que j'imagine. Pour moi, c'est créer des failles, c'est inutile, c'est perdre de l'énergie avant qu'il soit utile de la donner. Enfin, voilà.
Alors vous parlez de violence, vous parlez aussi de failles, on parlait de Buster Keaton, j'y reviens, Yann Ecovre, à l'origine de ces aventures, de ces cascades, il y a presque toujours une histoire d'amour malheureuse. Vous évoquiez son amour pour cette jeune femme dans Le Mécano de la Générale. Est-ce que c'est peut-être aussi, par hasard, ce qui décide vos personnages, en particulier votre personnage de terroriste, à vouloir en finir? Il y a de l'amour au cœur de tous vos spectacles?
Oui, ouais. Il y a de l'amour parce que bon, il y a toujours un passage où il y a une rencontre féminine avec quelqu'un du public de façon plus ou moins extrême. Surtout dans Extrémité, où on fait quand même de la bascule coréenne avec quelqu'un qui en a jamais fait de sa vie. Et puis dans Extension, il y a une petite scène où on prend carrément des personnes très âgées. Notre corps, c'est 83 ans et c'est un des passages du spectacle qui donne beaucoup de questions aux programmateurs qui se demandent si c'est autorisable de faire ça dans notre monde actuel. Et moi, j'aime bien parce que, d'autant plus celui-là, c'est même mon préféré parce que ça montre à quel point on imagine ce que les personnes âgées ont le droit ou pas de faire. Et que finalement, de elles-mêmes, ça se passe très bien. Et alors, la bienséance pense « Ah ouais, mais s'il y a un problème, un jour, là, on va tous en prison ». En même temps, quand il y a un problème, c'est toujours celui qui a eu l'idée du problème qui va en prison. Donc, en l'occurrence, ce sera moi, en vrai.
Alors, c'est l'amour du risque. Yann Ecovre, Chloé Molia, comme dans l'amour, sur scène, vous ne touchez plus terre, vous êtes vulnérable, vous risquez la chute. Quelle place l'amour occupe-t-il dans votre travail? En quoi est-il peut-être question de cela?
Je pourrais le mettre par plusieurs entrées. La question de l'amour, je le vois sur le... Dans l'idée de l'éros, un peu à la grecque, où j'avais entendu une fois l'amour, c'est un peu ce qui fait tourner les planètes.
C'est les
corrélations des principes masculins-féminins. Là, je suis dans une pratique en tant que femme qui sollicite énormément la musculature aussi. Il y a vraiment cette question du féminin, du masculin qui se coordonne, qui se repousse, qui s'attire. Il y a une question de partage aussi. C'est aussi une histoire amoureuse, ça, je dirais. Il y a par contre l'évitement, la tentative d'éviter la question de la saisie. Hein, tout dépend qu'est-ce qu'on met dans l'histoire de l'amour. En tout cas, j'essaye de retirer toute question de possession de ça, bien qu'il s'agisse que de saisie de la barre.
Donc, il y a un impossible. On dit qu'il y a un impossible dans la saisie entre un homme et une femme dans l'amour. Il y a un impossible aussi quand on cherche à saisir le trapèze.
Non, le trapèze, il se saisit facilement. Après, c'est intéressant d'observer tout ce que ça produit, cette question de la saisie. Par exemple, moi, je passe ma vie dans la saisie avec les poings fermés, extrêmement tenus. Qu'est-ce que ça engendre? Quelles répercussions ça a? pour des gens qui regardent, quelle répercussion ça a, quel imaginaire ça sollicite, cette idée de tenir, de lâcher, tiens bon, lâche, le lâcher prise, enfin bref, là il y a de quoi, ouais, il y a de quoi rêver. Ouais.
On dirait qu'on se lire sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. Que l'on soufflerait sur les braises. On dirait que les pirates nous assiègent et que notre amour c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord. Qu'il est toujours des os et les déesses, goûter aux alentours, souvent changer d'adresse. Ceux qui nous entourent, l'extension de nos corps, quand nous sommes à l'écart, mineurs, chercheurs d'or.
Le rire et l'émotion telles que vous les provoquez avec intensité dans vos spectacles ne sont pas sans rappeler les émotions véhiculées par Bachung. Là, c'était Sur un trapèze, son dernier album Bleu Pétrole. Chloé Molia, Yann Ecovre, je parlais de cette intensité qui exige à n'en pas douter de votre part un prix à payer. Vous en disiez peut-être un peu quelque chose, Chloé Molia, à l'instant, en parlant de vos poings serrés sur le trapèze. Il est question d'un engagement physique extraordinaire. Yann Ecovre, le sous-titre de votre compagnie In Extremis, c'est un cirque et un réel à risque, comme tout bon acrobate en répétition. Peut-être comme les soirs de spectacle, vous, pour arracher des rires à l'assistance, est-ce que vous prenez des risques physiques, en particulier celui de vous faire mal ?
Non, pas pour leur arracher des rires en tout cas. Le rire, il vient parce que dans l'écriture, on se met dans des situations un peu tendues et donc les gens... Enfin, les gens, forcément, ils ont une espèce de tension aussi sur eux et on leur fait peur et on s'amuse à leur faire peur. Ce qui leur fait pas le plus peur, finalement, c'est pas tellement ce qui est le plus risqué du tout. Enfin, ils ont peur parce qu'ils pensent que oui et que c'est un dérapage de toute cette ambiance qui fait que, ah ben voilà, on arrive à l'accident, c'était obligé. En plus, ça nous retombe dessus. Mais,
alors, par exemple, décrivez-nous un peu certaines des installations. Vous voulez pas déflorer la magie, la surprise ?
On est obligé de pour les deux derniers spectacles, en tout cas, on est obligé de dire aux gens cardiaques que quand même ils peuvent partir si vraiment, ou alors qu'ils prennent leur petite pilule à la main, qu'ils les préparent au cas où. Et c'est voilà des gros retours qu'on a eu pendant la CRA de non, mais il faut les prévenir, c'est obligé, vous allez obligé. Enfin, il y a un moment, il va y avoir un problème.
Mais alors, c'est de la peur ou c'est de la terreur puisque vous faites un spectacle à base de terrorisme.
C'est la surprise très
courte.
Et mais qui fait bien, ouais, qui peut faire peur. Et en fait, pour en revenir au rire, c'est que dans la construction, c'est ils sont un peu en tension. Et du coup, à un moment donné, il y a un truc absurde et extrêmement marrant qui vient casser complètement ça dans une position où on devrait pas du tout l'avoir. Et du coup, c'est ça qui fait qu'enfin moi, mon humour est vraiment, je pense, basé sur ça, sur le moment où on rit, au moment où il faut pas. En fait, c'est pas même pas parce que c'est pas drôle, mais c'est parce que non, là ils sont concentrés. On dirait que le moindre chose pourrait casser l'édifice. Et puis en fait, il y a des trucs hyper idiots où du coup ça rit et là le public il rit et il se soulage de ça, de cette tension un peu.
Vous désamorcez les angoisses en fait.
Ouais, voilà, c'est de passer un peu de ces deux extrêmes, un peu de l'un à l'autre. Après moi, ma façon d'écrire, mon écriture, elle est hyper simple. C'est moi, je pense que le public, dans quel que soit le domaine, qu'il soit même en musique, il faut avoir une longueur d'avance sur lui. À partir du moment où il suit quelque chose et qu'il sait pas, eh ben, il va suivre et il va pas décrocher, il va pas se rendre compte qu'il est mal assis, il va pas regarder quelle heure il est, que sa femme est peut-être ailleurs et qu'il est habillé tout de jeune. Et voilà. Malheureusement, les politiques le comprennent un peu trop bien ça, ou en tout cas leur charger.
De communication
et tout, et du coup, ben, ils mènent le peuple, les petites brebis.
Alors, vous avez un discours.
Je trouve que c'est plus intéressant de le faire dans le spectacle, en tout cas, que dans l'humanité.
Alors, on parlait de la douleur. Il y a de la douleur dans la vie politique et dans la citoyenneté aujourd'hui en France, Yann Ecovre, mais aussi dans vos corps. Chloé Molia, la douleur, les crampes, les contractures, est-ce que c'est un mal nécessaire pour parvenir, comme vous le faites, à l'état d'apesanteur ?
Non, j'ai pas trop de crampes. Des courbatures, j'en ai plus non plus.
Et parce que vous cachez pas cette douleur au spectateur ?
Non, je cache pas. Je sais pas si c'est de la douleur. Ça, c'est, je pense, c'est l'interprétation qu'on fait d'une sollicitation intense du corps qu'on peut, comme on n'est plus trop habitué à ça dans notre époque où on a des ascenseurs, des escalators, des voitures, des machins. Mais ça, ça a été très rapide quand même. Quelques générations avant, on faisait des bornes à pied, à vélo, machin. Enfin, du coup, l'usage du corps a énormément changé là, dans les derniers temps. Donc non, je crois pas que ça s'agisse de douleur. Par contre, faut être habitué à solliciter fortement et à ce qu'il y ait des sensations plus ou moins intenses qui surviennent. Effectivement, il y a ça parce que la Terre nous attire. Ça aussi, c'est question de l'amour. Hein. L'interaction gravitationnelle, c'est quand même génial. C'est ce qui fait que les corps massifs s'attirent mutuellement. C'est-à-dire que quand je suis face à des gens comme on est là, et ben en tant que corps massif, on s'attire mutuellement. C'est incroyable. Donc la Terre nous attire plus parce qu'elle est plus massive que nous. Donc évidemment, voilà. Donc par rapport à ça, il y a le fait de tenir. Il y a effectivement la barre la saisie de la barre qui provoque certaines sensations. Ça peut aller à certaines périodes dans la douleur, mais ça c'est une interprétation qu'on se fait finalement. Quand je suis plus fatiguée, j'ai plus mal. Quand j'ai pas envie de monter, j'ai très mal. Quand j'ai envie de monter, j'ai pas mal. Donc ça, après, c'est la douleur, c'est une question d'interprétation.
Mais pour
avant,
le spectateur,
il y a la sensation.
Pour le spectateur, vous cherchez à lui faire ressentir dans sa chair, sinon la douleur, du moins une partie de ce que vous
alors,
ressentez sur scène.
Alors, je m'abstiens de chercher quoi que ce soit vis-à-vis du spectateur. Ça, j'essaie de le laisser complètement libre de ce qu'il fait. J'essaie de proposer, moi, des choses assez claires, suffisamment dépouillées pour qu'il puisse y mettre sa propre vision. Mais sur Aléa, par exemple, sur la ligne, là, ce que je suis en train de préparer, enfin, ce que j'ai déjà créé la première partie... je m'engage à traverser une barre comme une ligne qui fait 30 mètres de long, 35 mètres de long, à bout de bras. Donc il y a la question de l'épreuve, quoi. Mais l'épreuve, ça vient d'un mot qui disait se tenir droit dans la tempête. C'est quand même une chose qui est assez nécessaire à confronter. Donc il y a ça, et après, on va découvrir ensemble, mais moi, comme le spectateur, qu'est-ce qui va advenir dans tout ça. Et c'est pour ça que ça ne se répète pas, ça c'est différent chaque jour. Ça dépend de la réception des gens, ça dépend de moi où je suis, ça dépend de l'heure de la journée, ça dépend de plein de choses.
Et vos épreuves dans Aléa, donc cette création que vous travaillez en résidence, dans différents espaces de résidence, et encore en 2015, vous cherchez à... Cette épreuve, c'est celle de la peur ? C'est celle du vertige ?
Non, c'est une épreuve du vivant pour certaines choses. J'utilise, moi, la suspension, parce que c'est, je dirais, mon langage ou ce que j'ai reçu de ma trajectoire. Donc j'utilise la suspension, je trouve vraiment... intéressant cet état d'être entre ciel et terre, d'être justement en amont de la chute. On ne sait pas quel sera l'aval, mais en tout cas, il y a une chose comme ça qui est suspendue, donc qui est un peu dans l'idée de on ne sait pas comme vient de parler, on ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas qu'est-ce qui va advenir après. Donc on reste suspendu aussi en regardant ça. Et dans cette suspension, dans cet espace dans cet espace intervallaire, si je revends les mots de Claude Régis, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe.
C'était un petit extrait de la musique recréée par le compositeur Joe Ishai pour le Mécano de la Générale. C'était pour vous, Yann Ecovre, une création qui avait eu lieu en 2004, un ciné-concert au Festival de Cannes. On s'étonne, vous évoquiez les personnes âgées dans vos spectacles, Yann Ecovre, on s'étonne aussi du nombre d'enfants. Et vous les mettez face à la violence, en particulier dans ce spectacle dont on parle depuis tout à l'heure, inextrémiste, face à un apprenti djihadiste, un apprenti kamikaze. Étonnamment, ces enfants explosent littéralement de rire. Est-ce que vous croyez qu'ils saisissent l'ironie de votre propos ? Vous avez eu des retours de ce jeune public ?
Non, mais ils saisissent pas. Mais que ce soit les trois spectacles, les enfants, ça fait exactement la même chose dans les trois, à savoir, ils deviennent frénétiques. Et c'est juste que dans l'écriture, les adultes peuvent être choqués même de certains trucs, et ou pas, ça dépend un peu de leur ouverture, hein, mais Mais les enfants, eux, ils prennent ça du premier degré. Pour eux, ils sont à l'intérieur même d'un dessin animé. Donc, ils perdent, ce qu'ils perdent assez vite, c'est leur position spectateur. Et au bout d'un moment, ils sont là et ils sont dedans et ils parlent. Et beaucoup de gens, même beaucoup d'adultes, parlent dans nos spectacles. Des fois, on s'amuse à les enregistrer tellement ils sont... Il y en a, ils font juste que commenter tout ce qui se passe. Ils sont là, ah, mais là, il fait ça. Ah, mais il fait ça. Ah, mais il va faire ça. Ah non, il va pas faire ça. Ah, oh, si, il va faire ça. Ah non, mais ça, il va pas le faire. Et puis, ils se demandent à leurs voisins, tout ça. Et les enfants, c'est pareil, sauf que c'est plus direct encore. C'est-à-dire, ben, ils crient dès qu'ils ont une émotion à fond. Il y a encore deux jours, j'en ai gaffé un à un pont lumière pour le calmer, parce qu'il faisait trop le malin.
Le gaffé, c'est donc le scotché. Hein.
Ouais.
C'est dans les cintres.
Voilà, exactement.
Au-dessus de la scène.
Ben, parce qu'il lui venait un peu sur la scène, et puis il sentait tellement bien qu'il voulait commencer à monter sur les équilibres qui étaient assez précaires. Donc, du coup, voilà, c'était... Une des improvisations. C'est plus facile avec les enfants qu'avec les mecs bourrés, quand même.
À 13h, passé de 16 minutes, c'est l'heure de retrouver à présent la chronique d'Eau de la Vigne à première vue, qui s'entretient aujourd'hui avec l'artiste Tania Moureau.
Tania Moureau est une artiste française. Elle est considérée comme l'une des artistes françaises majeures de sa génération dynamique. Elle développe un art puissant et multiforme. Ses œuvres vous replacent au cœur de la conscience du monde et sur le monde imparable. Tania Moureau répond à notre question. Quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain? Et à première vue, Tania Moureau répond.
C'est une question piège parce que je ne peux pas déterminer quelle œuvre est à l'origine de mon intérêt pour l'art contemporain. En fait, si je devais dire, c'est que dans ma chambre de gamine, j'avais une reproduction d'un tableau de Miro dans lequel j'ai voyagé pendant 10 ans. Donc, je pourrais dire, ça commençait par un œil et il y avait un œil au centre et puis des formes abstraites autour. Ça, c'est peut-être une des réponses. Mais aussi, je peux dire que j'ai été au Louvre toutes les semaines d'après mon programme d'histoire à partir de l'âge de 6-7 ans. Et donc, j'ai eu des amours successives et c'est cette totalité historique qui est à l'origine de mon intérêt pour l'art en général, qu'il soit occidental, mais aussi je suis toujours extrêmement intéressée par l'art de l'Inde du Sud, par les bronzes Chola et par beaucoup de choses. Maintenant, si je devais citer au niveau de l'ambiance une œuvre qui m'a interpellée dans ma jeunesse, ça serait Les Otages de Fautrier. Tout ce qui entoure le fait comment ces tableaux ont été peints, que Fautrier était dans la résistance, qu'il entendait les assassinats des résistants à côté de sa maison, etc. Et, bon. Et puis pour un désir absolu de nouveauté, quand j'avais 10-12 ans, j'ai été complètement interpellé par Mondrian. Et il faut dire que c'était dans une France très Pompadour, c'était quand même avant 68. Et pour moi, Mondrian et par la suite Malevitch représentaient la modernité absolue, l'exigence totale vers laquelle j'ai tendu. Et je continue d'avancer dans ma pratique artistique.
C'était à première vue la chronique d'Eau de la Vigne et notez, chères auditrices et auditeurs, que les œuvres de Tania Moureau vous donnent rendez-vous à la rentrée au Macval de Vitry-sur-Seine et au Centre Pompidou-Metz. Vous, Chloé Molia, Yann Écovre, vous donnez rendez-vous à plusieurs reprises à nos éditrices, à nos auditeurs, et ne serait-ce qu'au cœur de l'été. Vous allez jouer, Chloé Molia, avec votre compagnie Rhizome, 3 spectacles à Salé, au Maroc, dans le cadre du festival Caracena, du 21 au 31 août. Il y aura Opus Corpus, Infinitude, Horizon, et puis vous préparez une création spécifique pour la Nuit Blanche de Paris, le 4 octobre prochain, et vos aléas, dont nous disions un mot, sont en cours d'élaboration. La phase 2, ce sera en novembre, et puis pour la phase finale, elle pourrait être découverte à Marseille, au Merlan, en partenariat avec le CREAC. Ce sera en février 2015. Mais alors, parlez-nous justement de l'élaboration de ce spectacle, de ces aléas et de ces différentes phases.
Eh bien, ça, c'est toujours une manière de réentrer dans la question de la suspension et de continuer à interroger ça. Donc là, il y a cette histoire de traversée d'une ligne de 30-35 mètres de long. Il y a après une histoire de diversifier cette chose-là, de passer d'une personne qui traverse à plusieurs pour voir que du féminin, pour le coup, à cause de l'amour. À cause justement du fait qu'il faut... que une femme qui fait des tractions et un homme qui fait des tractions, ça raconte pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait la même situation. Et du coup, le féminin dans sa puissance physique m'intéresse, et il est divers, il y a plein de manières d'aborder ça. Enfin voilà, donc après c'est en élaboration, donc ça reste dans le mystère. Sûrement une fois que ce sera élaboré, ça sera toujours dans le mystère, j'espère en tout cas. Sinon ça sera raté. Et voilà.
Yann Écovre, on pourra vous retrouver samedi 9 août dans une carte blanche au Cirque Inextrémiste, aux airs de Balforin, avec le groupe de jazz Papanoche, en clôture du festival Mince-Alors, qui mêle toute cette semaine avec frénésie, musique, danse, théâtre, film, poésie, en Isère. C'est au sud de Grenoble. Mais alors, cette carte blanche, comment l'appréhendez-vous ?
Eh ben, je sais pas trop, mais j'adore faire ça. C'est-à-dire, on a 3 jours pour faire des trucs. Du coup, j'ai un peu des idées.
Vous ne serez pas seul, hein, je le précise. Non. Il y aura Véronique Thuayon, qui est clown, et Julien Favreuil, musicien acrobate également.
Exactement. Et puis Rémi Besassier aussi, qui est un autre acrobate, qui est pas du tout dans le milieu du cirque, qui l'a fait il y a longtemps, qui est plutôt un trampoliniste.
Et donc il y aura du trampoline, il y aura des planches de frêne, des bonbonnes de gaz, des djellabas ?
Ouais, il y aura du trampoline, il y aura de la boule à facettes au trampoline, il y aura des ouvertures de bouteilles de champagne au trampoline, il y aura pas mal d'entremettage, de systèmes d'entremettage pour public.
C'est-à-dire
des petits mécanismes qui font que le public sera un peu investi dans un rôle s'il veut... pour une soirée où un peu tout est possible.
Les questions d'amour, donc, encore.
Mais oui,
c'est une agence matrimoniale, le Cirque Inextrémiste.
Exactement, mais c'est surtout le bal qui est dans une agence matrimoniale. Et puis du coup, là, avec le Cheptel et les Coumes, on fait un truc qui ressemble à ça, qui s'appelle le bal cirque depuis quelques temps, mais où on est vraiment très, très, très nombreux. Et là, du coup, ça me permet de continuer à travailler certains trucs où je voulais aller un peu plus dedans, à un peu plus petit nombre. Mais oui, du coup, le bal, c'est la rencontre. C'est fait pour se rencontrer entre les villages.
Mais cette rencontre, Chloé Molia, vous la proposez au public sans qu'il ait besoin de se lever de sa chaise. C'est cette attraction des corps dont vous parliez tout à l'heure. Vous cherchez à les englober, à les toucher sans qu'ils aient besoin de se déplacer.
Non, je cherche plutôt en fait à essayer de gommer toute question de métier ou tout ce que j'ai pu traverser comme étant trapéziste avant, parce que si le public voit une trapéziste, de fait, il est loin de cette personne-là. Donc ça, c'était une démarche qu'on avait amorcée avec Mélissa Vonnevepi, avec qui je travaillais avant déjà, il y a un bout de temps. On se disait, si on apparaît sur des trapèzes sur un plateau, c'est cuit, ça marche pas. Donc on a commencé à travailler sur des falaises. J'ai continué après cette chose-là, de voir comment c'est pas la trapéziste qui travaille ou l'ex-trapéziste, je sais pas si je le suis encore. Mais comment, moi, en tant que femme, ce que je suis, de se proche de les gens que je côtoie dans cette salle-là, comment je vais me mettre à faire ça? Et du coup, j'espère qu'ils puissent se reconnaître dans cette figure-là.
Alors avant de pouvoir vous côtoyer, de vous rencontrer en chair et en os, je le disais en particulier au festival de Salé au Maroc, le festival Caracena, pour ce qui est des travaux de la compagnie Rhizome, votre compagnie Chloé Molia du 21 au 31 août, et puis en particulier samedi 9 août dans le cadre du festival Mince Alors en Isère pour votre carte blanche, le cirque inextrémiste. Je vous propose d'ouvrir maintenant la session live de Mathieu Conquet. Je vous remercie de votre venue Chloé Merci. Molia et Yann Ecovre. Mathieu Conquet qui nous propose aujourd'hui d'écouter le poète et chanteur anglais originaire de Trinidad, Anthony Joseph, auteur d'une musique qui mêle le verbe de la Beat Generation, le free jazz et le funk hypnotique. Il interprète en live Time Archaeology.
Well, if a father kills his own son in self-defense, then sets the bones in a calabash gourd, the bones will turn to fish. And if the bowl breaks, the water will fill the valleys, make rivers of streams, make lakes of waterfall, roots in the sky, branches in the sea. And there were Ptolemaic totem heads and pyramids and African cotton that was found in the pre-Columbian Caribbean, which must have traveled by sea, whether Aborigine or Asiatic black, these islands were traveled on long before the 5th century. And in that once upon when the world was flat, everyone could see each other, so there were no secrets. And anything set sail from the Gambian coast or from the Senegalese was bound to drift to the Americas eventually. They knew that if you threw a stone from Sierra Leone, it would bloom into islands. They knew the sea. And so they traveled by reed to reach the Haitian coast, seeking the gold in the rivers and the nicotine. There is evidence to suggest that they were searching for that paradise of the West in the times of Ramesses. Because we find their footprints in Haiti, in Jamaica we find words of their tongues, we find their breastbones in Trinidad, bone dry fetish of rainforest and fragments of spaceships in Peru. And many years later, in 1492, Columbus set sail for Japan, but instead he found the caciques of the Bahamas sitting in a cipher smoking pipes. 1502. Came ships at a distance to a landfall in Mexico. Oh, precious cargo! What could you carry but your divinities and cosmologies? In ether there are similarities. I mean, the Zemi of the Taino, for instance, were like lowers of turtles and snakes. The Araraks also had spirits which took on human shapes. Like the great gods of Guinea, mythical creatures, distorted faces with elbows on the knees. This is our lineage. The sea holds us here, saves us from falling off the side of the earth. The more things change is the more we stay the same. Sometimes we spew ourselves up, but underneath laughter can be heard. The struggle continues to define a space, to make this place our home. While the diaspora unravels like a broken necklace. While the diaspora unravels like a broken necklace. While the diaspora unravels like a broken necklace.
Mm-hmm. C'était la session live de Mathieu Conquet avec aujourd'hui Anthony Joseph au chant, Roger Raspail au congas, Andrew John, basse électrique, Jonathan Idiagboni à clavier et Eddie X à la batterie. Anthony Joseph sera en concert demain soir au Théâtre de la Mer à Fiesta 7 et le 26 septembre à Toulouse. Quant à son disque Time, il est édité chez Naïve.
Jusqu'à 14h, la grande table d'été, Martin Kénéen.
Deuxième partie à présent de cette grande table d'été aux saveurs extrêmes avec une rencontre autour de l'imaginaire du djihad en compagnie de l'écrivain Julien Suodo, auteur du polar Dawa, récit haletant et balzacien d'un projet d'attentat terroriste à Paris, et en compagnie également du journaliste indépendant Mathieu Suc qui vient de signer une enquête sur les islamo-braqueurs pour M, le magazine du Monde. Et ces deux lascars m'ont donné rendez-vous, non pas dans un de ces cybercafés où les djihadistes commencent parfois leur triste parcours, mais à une terrasse accueillante du 17e arrondissement de Paris. Et me tournant vers Julien Suodo, je lui demande tout de go quel chétane, quel démon l'a poussé à mettre en scène des personnages au destin si complexe et tourmenté.
Je crois que la représentation traditionnelle de la radicalisation islamiste et du djihadiste est trop simpliste. Je pense qu'il y a dans cette radicalisation une somme de facteurs, de paramètres qui coagulent tous ensemble pour mener l'individu sur le chemin de la radicalisation. Et donc, il faut être prudent avec toutes les rationalisations qui ont cours pour comprendre des profils comme celui de Mera, comme celui de Nemouche dans la réalité. C'est trop facile, à mes yeux, de dire illumination religieuse ou conviction politique, volonté de faire brûler Babylone. Israël, les États-Unis, il y a quelque chose de plus complexe. Évidemment, c'est dans le tableau, mais il y a d'autres choses. Et parmi ces autres paramètres que je prends en compte dans mon roman pour construire mes personnages, il y a tout l'amas de misères individuelles qui sont des choses totalement universelles que vous et moi pouvons connaître, mais qui prennent une forme plus d'aspérité, une forme plus dramatique chez mes personnages et je pense chez le djihadiste réel. Il y a ensuite effectivement un effondrement et une déstructuration de la sphère familiale. L'autorité paternelle a souvent déserté depuis longtemps. Une transmission qui ne se fait plus par la force des choses à l'école. Le modèle républicain n'est plus transmis. Les services publics sont effondrés dans cette France périphérique, pas uniquement banlieusarde d'ailleurs, d'où sont originaires la plupart des djihadistes. Et puis évidemment, ça c'est le profil 2.0 du djihadiste, les mécanismes d'identification via YouTube, Facebook, avec ce qui se passe au Proche-Orient et le sentiment de participer de cette victimisation universelle d'un islam persécuté par les États-Unis, Israël, enfin ce genre de construction qui enflamme vite la réalité d'un individu.
Mais du point de vue du romancier Julien Suodo, cette construction alambiquée, tordue, tortueuse de votre roman Dawa, c'est aussi un hommage, un dommage, un tribute, comme on dit aux États-Unis, puisque vous vivez aux États-Unis depuis de nombreuses années, à Philadelphie, cette grande littérature policière, à cette littérature d'aventure, je ne sais pas, à Alexandre Dumas.
Alors, effectivement, je crois que je m'inscris modestement dans la lignée des grandes fresques sociales du 19e siècle, qui peuvent être françaises, Balzac, Zola, Hugo, ou bien anglo-saxonne, Dickens. Et par l'intermédiaire de ces grandes sommes romanesques du 19e, on revient à quelque chose de plus moderne, qui était par exemple l'originalité d'une série comme The Wire aux États-Unis. Ce qui m'intéressait dans ce roman, dans Dawa, c'était de traverser tous les étages de la société française et d'avoir une multitude de personnages qui racontent cette société dans toute sa complexité. Non pas pour en faire ces personnages des porte-parole de leur milieu d'origine, mais pour faire se croiser, s'entrelacer des destins qui, a priori, sont destinés à être totalement isolés et enclavés. L'enfermement communautaire est d'ailleurs un des paramètres importants de la radicalisation, le sentiment d'enfermement communautaire. Et la volonté de faire entendre toutes ces voix, saisir la France dans ce moment chaotique, pour ainsi dire post-républicain, de son histoire, et faire entendre les voix de toute la société française, non pas dans sa totalité, mais dans sa complexité, dans sa richesse, dans son épaisseur, depuis les couloirs des ministères où se prennent les décisions sécuritaires, politiques de sécurité, jusque sur les dalles des cités parisiennes où la radicalisation se pratique.
Alors on cite avec plaisir, puisqu'on est sur France Culture, de grands noms de la littérature d'aventure, de la littérature policière également. On pourrait citer James Ellroy ou Dominique Manotti pour les auteurs de polar français. Cependant, vous vivez aux États-Unis, je le disais, Julien Suaudeau, on est marqué depuis quelques années par l'intérêt et le développement de grands récits dans les séries télévisées. Vous citez The Wire, Sur Écoute. Série policière qui se passe à Baltimore autour du trafic de drogue et du fonctionnement des institutions. Il y a également la série Homeland qui met en scène un djihadiste dormant aux États-Unis. On peut penser aussi à House of Cards pour les différents étages de la vie politique et toutes ces intrigues. C'est aussi une écriture qui a nourri votre imaginaire et votre roman, Dawa.
Absolument, je suis plongé, immergé dans cette réalité au jour le jour, dans mon quotidien aux États-Unis. Et effectivement, il faisait partie de mes intentions romanesques au moment de l'élaboration et la jeunesse de Dawa, d'avoir à la fois une approche polar en utilisant les codes du roman policier, le suspense, le principe du compte à rebours, les cow-boys contre les Indiens en réalité, et d'ajouter à cette trame policière une dimension sociale, mais également politique, c'est-à-dire d'ancrer mon récit dans la réalité du pouvoir républicain ou post-républicain aujourd'hui en France, et également de questionner la raison d'État. Et ça, effectivement, comme vous le dites, c'est une superposition que des séries comme House of Cards, comme The Wire, Sur Écoute, comme Trémé également sur la Renaissance culturelle de New Orleans après Katrina, c'est une superposition que pratique avec génie, je crois qu'on peut le dire, les séries américaines des 10 dernières années.
Vous, Mathieu Suc, votre enquête, mais en scène, non pas des lascars devenus djihadistes à la manière dont on se représente volontiers Mohamed Merah ou Mehdine Mouche, de jeunes arabes, de jeunes rebeux, comme on dit dans les quartiers, qui auraient mal tourné en se cherchant une identité, mais vous choisissez volontairement de mettre en avant dans cette enquête, donc le djihad par intérim, deux figures singulières et assez étonnantes. Pourquoi avoir choisi de mettre en lumière ces deux personnages que sont Rudy Terranova et Teddy Valsi?
Moi aussi, j'ai voulu aller au-delà de la caricature. En gros, sur le banditisme, je vais faire assez simple et schématiser. On va dire qu'il y a trois divisions. La première, c'est le grand banditisme, c'est les grands parrains, c'est les braqueurs de fourgons blindés. Et ces gens-là, ça fait 10 ans que je bosse là-dessus. Quand vous touchez, je vais être très trivial, à la coke, à des millions d'euros, aux filles faciles, j'en ne vois aucun qui ne s'est laissé pousser la barbe. Vous avez tout en bas de l'échelle la troisième division, qui sont les braqueurs de supérettes, les petits braqueurs de cité de très très bas niveau. C'est des gens comme Nemouche, ce sont des gens comme Merah. Ça, ce sont des gens qui sont facilement radicalisables parce qu'ils n'ont rien, parce qu'ils rêvent d'avoir tout. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont dans l'entre-deux, dans la deuxième division. C'est le cas de gens comme Terranova ou Valsi, qui ont pu participer vraisemblablement peut-être à des gros coups parfois, j'en suis pas sûr, qui sont voilà, des voyous, qui ont braqué des banques, qui ont fait des braquages, qui font ci, ça, mais qui sont quand même, qui n'ont pas atteint la première division. Et ceux-là, on les voit frayer. Alors, ils ne sont pas nombreux, hein, il ne s'agit pas d'alarmer les foules, il n'y en a pas des centaines, c'est quelques dizaines de mecs sur ces dernières années. Et on les voit de temps en temps. Moi, ce qui m'amusait, c'est qu'en plus, ils font des allers-retours. Terranova et Valsi, c'est-à-dire qu'un coup, ils sont du côté des voyous, des braqueurs. Un coup, on les voit en rapport avec des islamistes. Et un coup, on les revoit retourner avec des braqueurs. Enfin, c'est très variable. Moi, c'est ça qui m'amusait, c'était cet aspect. On va chez les uns, chez les autres, mais on n'a jamais l'air là, d'être quelque part, véritablement. C'est compliqué de les situer. D'ailleurs, la justice a du mal à les appréhender. C'est des gens qui se font condamner, mais alors est-ce qu'on doit retenir une qualification terroriste sur tel ou tel acte? Est-ce que non? Et par exemple, sur Valsi, il y a cette vidéo où il prône le djihad, qui, quand on lit le texte, quand on voit le truc, peut être très angoissante. Enfin, on la verrait bien diffusée au JT de TF1 en disant « Hola, bonnes gens, protégez-vous ». Et en fait, quand on voit les autres vidéos où il se met en scène avec un côté un peu m'as-tu vu, un petit peu... c'est vrai que ça relativise. Et lui-même, au procès, alors ça a beaucoup fait rire à l'audience, et c'est vrai que c'est drôle, il dit « Mais attendez, si vous regardez au fond de l'image, il y a mon petit chat, il s'appelle Chatou. Vous avez déjà vu un terroriste qui se filme avec Chatou ?» Moi, ma thèse, c'est que ces gens-là, enfin en tout cas ceux dont je traite aujourd'hui et qu'on voit donc faire des allers-retours, ils ont envie d'exister. Et que là, aujourd'hui, ils se laissent pousser un peu la barbe. Ils seraient nés 20 ans plus tôt, on les aurait retrouvés chez Action Directe. Ils seraient nés 30 ou 40 ans plus tôt, on les aurait retrouvés du côté du SAC. Je pense que l'islam n'est qu'un prétexte. Et c'est des gens qui ont juste envie d'être quelqu'un, et c'est ce qu'on retrouve aussi à l'échelle plus basse, enfin sur des Meras ou des Nemouches, des gamins de cité qui ont un environnement social terrible, peu de perspectives. Quelles sont les perspectives? C'est 1, devenir footballeur, 2, gros trafiquant de drogue, mais c'est compliqué, et quand on n'a ni le talent pour l'un ni pour l'autre, la solution de facilité, c'est de se laisser pousser la barbe et aller faire le djihad.
Alors tous ces personnages de troisième division, comme dit Mathieu Suc, Julien Suaudot, on les trouve dans votre roman Dawa. Il n'y a pas le footballeur, mais il y a le boxeur. Il y a également le trafiquant de drogue surnommé le Tchétchène. Vous avez choisi, vous, de mettre en scène certains de ces, non pas smicards du crime, mais smicards du djihad, mais également un personnage de professeur d'université. Pourquoi ? Pour essayer de, à travers ce personnage, dire quelque chose de plus profond sur les causes qui poussent ces hommes à l'action.
Vous dites mise en scène, je crois que le terme est très important. On n'est pas dans l'explication, dans le reportage. On est réellement dans l'introspection, voire dans l'identification. On partage le point de vue de tous ces personnages, qui peuvent être djihadistes, mais comme je disais tout à l'heure, qui peuvent être aussi des hommes de pouvoir dans les ministères ou dans la hiérarchie policière. Et on suspend notre jugement, le récit demande au lecteur de suspendre son jugement, c'est le pacte romanesque, sur ces personnages et sur leur destin, sur leur décision, aussi monstrueuse et porteuse de désastre soit-elle. Je crois que c'est la condition et en même temps la puissance du roman au sens large. Sur le personnage d'Hassan Bakiri, qui est donc le leader, le cerveau de la cellule Dawa al-Islamiya, qui donne son titre à mon roman. Effectivement, c'est un professeur d'université sans histoire, un homme ordinaire qui vit reclus au chevet de son père frappé par la maladie d'Alzheimer. C'est également un pur produit de la méritocratie républicaine. Il a fait Sciences Po, il est agrégé d'arabe. Donc rien a priori dans son présent, dans ses conditions d'existence, qui justifient, qui permettent d'expliquer une radicalisation et la volonté que la France s'embrase. Chez lui, la radicalisation et la blessure sont à chercher dans son passé et dans son histoire familiale, dont il est totalement prisonnier au sens le plus tragique du terme. Il y a une dimension tragique que j'ai essayé de travailler dans mon roman, la tragédie grecque qui vous enchaîne à une fatalité à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Et donc est monté en lui au fil de toutes ces années, même s'il a cherché et résisté. Et c'est un homme qui aime sa vie en France, qui aime son métier, qui aime transmettre dans le cadre de son travail de professeur à l'université. Il a cherché à résister à ce poison que ses racines, que ses chaînes familiales ont fait monter en lui, sans y arriver.
Mathieu Suc.
Si je peux me permettre, et c'est peut-être de la faute des journalistes, mais le fait des figures intellectuelles qu'on voit monter dans des cellules djihadistes, ça existe. C'est vrai que nous, on en parle assez peu, mais souvenez-vous, il y a quand même eu cet ingénieur qui a été jugé là, à Clermont-Ferrand, ou je ne sais plus, pour une radicalisation. De mémoire, le mec qui se fait exploser sur une base de la CIA, c'est un médecin et qui avait aucun signe de radicalisation. C'est venu de manière très intime, très personnelle, donc ça peut exister. Et par ailleurs, moi, sur certaines des cellules là, sur lesquelles j'ai bossé, vous avez soit les jeunes de cité ou les braqueurs, enfin encore une fois les braqueurs ils vont pas faire le djihad, mais qui vont servir de chair à canon, et c'est ceux qu'on va recruter. En revanche, vous avez tête de cellule, généralement vous avez un schéma, alors c'est deux figures qui peuvent se confondre en une seule personne, mais vous avez la figure du mec qui a déjà été condamné pour des actes de terrorisme et qui est celui qui va un peu faire rêver, entre guillemets, les proies des recruteurs. Par exemple, là, moi je parle de Smeinaït Belkacem, qui est un des cerveaux des attentats de 95, qui est en tôle depuis 20 ans et qui depuis 20 ans recrute des gens dont ceux dont je parle dans mon article. Voilà, et je raconte même qu'il y a une année, ils le mettent dans une centrale et en quelques mois, il fait doubler la fréquentation du culte musulman. Mais derrière, où ça peut être la même personne, vous avez quelqu'un de très structuré intellectuellement qui est la personne qui s'y connaît vraiment en théologie et qui peut avoir un aspect qui a une voix douce, qui n'a pas de barbe, qui est quelqu'un qui a l'air d'être complètement intégré dans la société. Et c'est par ce biais-là, généralement, qu'on arrive à détourner les jeunes et à les radicaliser. Mais la figure initiale, celle qui corrompt, est plutôt quelqu'un d'avenant. Et ce n'est pas la caricature du barbu, et ça peut être quelqu'un de très, très intégré. Donc, c'est des cas de figure qui existent très souvent, mais c'est vrai qu'on en parle assez peu, en fait.
Les causes profondes de la radicalisation et des opérations terroristes kamikazes, Julien Suodo, pour ce qui est de votre roman d'Awa, sont à chercher donc dans le passé. Et on retrouve cette impression plusieurs fois au long de votre roman que la guerre d'Algérie n'est pas finie.
Je crois vraiment, et ça, c'est ce que raconte le livre, je crois qu'elle est la matrice de bien des maux dont nous, en France, aujourd'hui, nous croyons affligés. Je ne dis pas que nous en sommes affligés en toute objectivité, mais bien des Français de souche, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, ou d'origine maghrébine, c'est un mot que j'aime encore moins, s'en croient affligés et comptables. Parce que l'abcès de la guerre d'Algérie, ces zones d'ombre, n'ont pas été traitées. On entend toujours protester, maugréer et bougonner quand on parle de repentance. Mais il ne s'agit pas de faire repentance, de se repentir. Il s'agit simplement de reconnaître de part et d'autre ce qui a été fait. Donc faire œuvre d'historien. Ça n'a pas été fait, ni du côté algérien, ni du côté français. En tout cas, pas suffisamment à mon avis. Et du coup, il y a cet abcès qui continue à inspirer, énerver les blessures contemporaines. Et effectivement, c'est un matériau romanesque qui est d'une richesse prodigieuse. La revanche, la notion de vengeance, je crois que c'est la clé de l'univers de la tragédie grecque, de la tragédie shakespearienne, jusqu'au western spaghetti, qui est aussi une de mes grandes sources d'inspiration pour Dawa. Et bien évidemment, la plupart de mes personnages sont habités par ce désir de revanche, qui peut être un désir de revanche politique, personnel. Il y en a un qui va au djihad et à la radicalisation, à la suite d'une blessure amoureuse. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de facteurs vraiment universels. C'est difficile de démêler ce qui est de l'ordre du rationnel politique ou de l'absolu religieux et de facteurs beaucoup plus personnels comme celui dont je viens de parler. Mais la revanche, oui, très clairement, par son inscription dans l'univers de la tragédie, est un sentiment et une émotion d'une puissance qui est de nature à porter tout un roman, tout un récit.
Les clés d'explication, de compréhension que vous donnez l'un et l'autre de la radicalisation passent par une analyse sociologique, une analyse politique, une analyse de l'histoire, de la mémoire, du refoulé français. Cependant, vous avez cité une blessure amoureuse pour l'un de vos personnages, mais en réalité, on a l'impression que les femmes sont partout. La question de la relation amoureuse est une clé. Alors, c'est sans doute une clé de la tragédie, ce modèle dont vous vous inspirez, Julien Suodo, mais pour citer Lacan, à nouveau, Lacan disait que les hommes partent à la guerre pour échapper à leur bonne femme. Est-ce qu'au fond, c'est peut-être pas ça aussi une des clés majeures ?
C'est plutôt l'inverse, c'est qu'ils en ont pas.
Ils préfèrent aller à la guerre, ils préfèrent se faire sauter plutôt que de chercher à rencontrer des filles qui leur font peut-être autrement plus peur que la mort. C'est en tout cas ce qu'on peut ressentir avec le personnage de Soul, par exemple, dans votre roman, Julien Suaudeau, ou à travers le personnage de cette femme politique qui préfère se lancer dans une bataille politique terrible plutôt que de s'affronter à nouveau à la question du désir d'un homme.
Effectivement, chez les deux, et c'est ça qui est très intéressant, puisque sociologiquement, ils ne peuvent pas être plus éloignés sur l'échelle de la société française actuelle. Je pense que c'est le manque de vraie vie. On revient toujours à cette blessure narcissique, ou à cette blessure fondamentale, qui détermine, active la volonté de se raconter en héros, d'avoir un destin autre, d'exister mieux, plus fort, de devenir une personne plus grande que soi. Et comment ? Mais c'est le premier idéal qui passe. Alors, en banlieue ou chez les pauvres, le djihad est un idéal aujourd'hui, et il faut le dire, c'est pas une vérité qui fait plaisir, mais c'est effectivement un idéal, au sens où les idéaux politiques à l'époque de la Commune ou de la guerre d'Espagne pouvaient envoyer des gens qui étaient peu satisfaits de leur quotidien vers une existence plus exaltante. Et j'ai bien conscience du caractère scandaleux, peut-être scandaleux, qu'a une affirmation comme ça, parce que c'était des justes causes dans notre imaginaire politique, la Commune et la guerre d'Espagne, les brigadistes. Mais c'est ainsi que le perçoivent les gens qui aujourd'hui partent au djihad. Enfin, en tout cas, j'en suis convaincu. Et par ailleurs, effectivement, cette femme politique, Hélène Faure, qui se jette à corps perdu dans une bataille qu'elle sait probablement perdue d'avance, c'est une autre forme d'idéal, mais c'est un idéal qui est plus courant sur les échelons supérieurs de la société, dans les élites, qu'effectivement en banlieue, bien sûr.
En conclusion, on revient, Julien Suaudeau, à la dimension romanesque, qui est la vôtre, votre imaginaire, et puis il y a celui de ces apprentis djihadistes, de ces djihadistes d'aujourd'hui, qui se racontent des histoires et qui sont des héros romantiques, au sens radical, transgressif du terme.
Il y a clairement un romantisme du djihad. Si on veut faire la psychopathologie du djihadiste, je crois qu'il faut commencer par là, absolument. Et ça permet de relativiser cette histoire de guerre ou de clash des civilisations qui serait l'explication, voilà, l'islam politique contre l'Occident laïque et la société de consommation. Il me semble que, effectivement, le romantisme, la volonté, la quête d'adrénaline et de discipline aussi. Parce que, dans un premier temps, il y a le glissement puritain, la barbe, le halal, l'apprentissage du Coran, toute une religiosité plus qu'une religion en réalité. Et d'ailleurs, combien parmi les djihadistes aujourd'hui en Syrie sont des Gaulois qui n'ont aucune forme d'attache familiale avec l'islam? Ça démontre par A plus B qu'il y a là un mécanisme de projection et d'identification qui est fondamentale. La volonté de se raconter, encore une fois, en héros est clairement de nature romantique. Mais c'est la chasse au bonheur de Stendhal. C'est la chasse au bonheur dans laquelle part Fabrice Del Dongo et tous les héros stendhaliens, simplement avec des conséquences beaucoup plus désastreuses pour ces djihadistes eux-mêmes et pour les gens qui sont leurs victimes. Vous parlez tout à l'heure des camps de prisonniers dont certains sont les capots aujourd'hui en Syrie. Enfin, ce sont des choses qui sont absolument abominables et monstrueuses. Mais effectivement, le nœud de départ est d'ordre romantique et effectivement romanesque.
Merci Julien Suaudeau, Mathieu Suc. Je rappelle, Julien Suaudeau, que vous êtes donc l'auteur de Dawa, roman publié chez Robert Laffont. Et vous, Mathieu Suc, que vous venez de publier Le djihad par intérim, enquête qui est parue dans M, le magazine Le Monde, avec peut-être une nouvelle publication à la rentrée, avant le tsunami des premiers romans, des nouveaux romans.
En termes de livres, non, pas tout de suite. Je vais m'y mettre là bientôt, mais on va attendre quelques mois, voire un an.
Alors on relira avec plaisir vos enquêtes journalistiques consacrées par exemple à Franck Ribéry, gaulois qui s'est converti à l'islam, ou encore à Ferrara, ce grand braqueur.
La Grande Table, c'est aussi l'été avec Martin Kénéen.
Trêve, un instant de désespoir, chères auditrices et auditeurs de la Grande Table d'été, car Marine Noyen vient de me rejoindre pour nous faire partager une nouvelle étape romantique, elle aussi, de son tour de France des festivités populaires et sucrées. Bonjour Marine.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, Marine, vous nous parlez de tauromachie pour les enfants.
Oui, aujourd'hui, je me jette dans l'arène, dans la poussière ocre de l'arène des toréadors, au plus près du duel tragique qui va se jouer là sous le regard d'un public exalté et frémissant. Entendre le souffle de la bête juste avant le début du spectacle qui va livrer l'unique combat de sa vie, le matador qui attend droit comme un i qui risque lui aussi sa vie. Une lutte à mort qui se poursuit à l'extérieur, jusque dans l'arène parlementaire, entre opposants farouches à la corrida, porte-parole de la cause animale et aficionados amoureux de leur patrimoine. Denis Podalydès en a fait l'expérience en 2010 quand il déclarait sa passion soudaine pour la tauromachie dans son livre « La peur mate à mort ». Frédéric Mitterrand aussi, alors ministre de la Culture, qui a inscrit la tauromachie au patrimoine culturel français en 2011, ce qui n'a pas manqué de déclencher une polémique. En France, depuis 1951, la corrida n'est autorisée que dans les territoires où elle constitue une tradition ininterrompue. Et depuis 1984, les matadors doivent avoir suivi une formation dans une école taurine. Richard Millan, lui, s'est formé tout seul. Il a toré pendant presque 30 ans en Espagne, en France, en Argentine. Ses 2,50 m de cicatrices témoignent aujourd'hui d'une carrière glorieuse interrompue à 41 ans. Désormais, il enseigne son art dans sa propre école taurine. Ses élèves ont entre 8 et 18 ans. Ils vont se produire dimanche pour la feria de Souston dans les Landes avec des vachettes.
Bonjour mademoiselle.
Vous êtes donc ancien matador, vous dirigez maintenant votre propre école taurine. Comment enseigne-t-on la tauromachie ?
Alors, avant de leur enseigner l'art de la tauromachie, je leur apprends je leur apprends un peu ce qu'est un taureau de combat et je leur apprends les terrains, les distances, à deviner d'une façon psychologique le mental de l'animal et donc automatiquement les approches d'une façon technique en me mettant dans le corps du taureau, c'est moi qui fais le taureau, et après les plus grands se mettent à ma place et essayer de trouver des solutions par rapport à l'approche de tout animal qui chaque fois sort avec un comportement différent et qui évolue en bien ou en mal en fonction de l'approche que vous avez vis-à-vis de lui. Mais surtout, je leur apprends à contrôler la tension, la peur, le stress, à relativiser ces situations et leur faire comprendre que le plus important, la matière première, entre guillemets, c'est le taureau de combat, mais que les seuls privilégiés qui peuvent avoir la possibilité de les tutoyer, ce sont les hommes qui se mettent devant.
Certains de vos élèves, là, dimanche, vont se retrouver pour la première fois dans une arène. Donc c'est pour ça qu'ils ont travaillé toute l'année, même pendant peut-être plusieurs années. Comment ça va se passer d'abord, concrètement ?
Quand ils vont sortir, ça ne sera jamais la première fois, puisqu'ils ont déjà sorti, ils sortent progressivement. Alors je vais devant les petites bêtes, je fais sortir d'abord ceux qui ont un peu plus de métier, pour canaliser l'animal, pour le contrôler un petit peu, pour le préparer. Et ensuite, je fais ordre décroissant avec des gamins qui ont moins de métier. Ce n'est pas une histoire d'âge, ceux qui ont moins de métier.
On imagine, quand on est si jeune et qu'on va entrer dans l'arène face, donc ce sont des vaches, hein, qu'il y a une certaine appréhension, mais même beaucoup d'appréhension.
Eh bien oui, ça, les gamins, je pense bien, oui. Mais enfin, ceux qui viennent, je ne vais pas les chercher chez eux. Hein. Ils habitent à côté d'une arène ou ils ont quelqu'un de la famille qui a été. Ils viennent déjà avec une certaine détermination. Je ne peux pas me permettre de laisser faire un travail avec des gamins qui craignent ou qui ne sont pas vraiment aspirés totalement et avec un gros aspirateur par le rêve et l'espoir d'être quelqu'un dans les taureaux.
Vous, c'était il y a un moment, j'imagine, votre première entrée dans l'arène. Est-ce que vous vous en souvenez ?
Ben oui, bon, disons, moi j'avais un père qui était très très passionné, mais j'avais pas la chance d'avoir toute une école, toute une infrastructure et des personnes qui s'occupaient de moi comme je suis en train de faire avec eux, quoi. Donc moi j'étais un petit peu plus jeté dans l'arène, si l'on peut dire. Donc j'avais des conseils un petit peu qui se contredisaient de personnes qui prétendaient savoir. Donc c'est le taureau qui m'a appris. Donc à base de prendre des coups de corne, des déceptions, des victoires. Je me suis construit dans l'arène.
Mais est-ce que vous vous souvenez des émotions que vous avez ressenties au moment de cette première fois?
Vous savez, quand vous êtes jeune, c'est un mélange de tout, c'est du plaisir, de la crainte, de la peur, de l'orgueil. Moi, la première fois que je me suis trouvé devant un animal, pour la première fois, je me suis senti, je ne savais pas si je marchais sur Terre ou sur la Lune, mais comme je savais où j'allais et ce que je voulais, je l'ai vécu d'une façon très tendue, mais en même temps très heureux de pouvoir la vivre pour la première fois. Et c'est comme dans tous les domaines et dans toutes les disciplines et dans toutes les situations que la vie nous amène à vivre une première fois. J'ai tué mon premier étoile à 14 ans et j'ai répété les choses comme je faisais l'entraînement et ça s'est passé comme l'entraînement parce que j'y croyais. Donc c'était un moment magnifique. C'est là où commence, où se termine l'innocence.
Merci Richard Millan. Voilà, vous pourrez voir ces élèves dimanche dans les arènes de Souston, des arènes qui fêtent cette année leur centenaire.
Merci Marine. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique émouvante et pour une nouvelle grande table d'été qui promet d'être énigmatique. L'émission d'aujourd'hui était mitonnée par une cellule de dangereux et néanmoins extrémistes pacifiques. Je m'y perds, une équipe, l'équipe de la Grande Table qui réunit Corinne Amar, Catherine Donnet, Lola Kahn, Marine Loyen, Claudia Prolongeau et Martin Kenéen. À la réalisation toujours Michel-Ange Vinti et à la technique Bruno Gagnère-Fontanille.